Voyageuse et lettrée. 24e jour du 8e mois de l'an 2325. Ferme la lande. Une autre vieille personne est venue s'échouer à la ferme la lande, telle une épave dans des eaux calmes. Je suppose que, comme Reine Constate et quelques autres, elle finira par reprendre le large ou se disloquer et couler à pic. En attendant, elle est là et mène grand train. Elle s'appelle Davanath, elle vient de loin, de la cité de Peplian et du siècle précédent. Davanath est une elfe de bronze coiffée de paille blanche, une gardienne du régolithe, une antique chamane qui vit mentalement en compagnie des génies des cratères. Parcourant les alentours de la ferme en plein soleil dans un scaphandre presque entièrement poncé, Davanath traque sur le flanc du mur de la lande les olivines vertes. Elle les taille et les polie à la ferme, à même le basalte de la rocaille. Puis elle ressort pour les semer dans la poussière ou les empiler en cairns qui s'effondrent immanquablement sans que jamais elle s'en émeuve. Car Davanath ne croit tout simplement pas aux lois de la physique, et sûrement pas à la gravité. Étrangement, ces cairns fascinent les robots fous. Ils gambadent avec entrain sur ce qu'il en reste, pour des raisons qui m'échappent. Je crois que l'épais panache de poussière que lèvent les foulées de Davanath les attire, et que les luisances des pierreries font le reste. Davanath accuse les robots fous de tous les maux et leur jette des cailloux dont ils ne se soucient pas. Tout en besognant, Davanath chante, ou plutôt elle psalmodie des cantiques dans une très vieille langue d'if. Sa voix ressemble tantôt à celle du loup, tantôt à celle de la hyène, ce qui rend Trim nerveux. Personnellement, ça me ravit. Davanath me fournit un instant l'illusion que ces nobles êtres sont revenus rôder parmi nous, dans les fourrés de la ferme. Premier jour du 9e mois de l'an 2325. Ferme la lande. Alerte de sécurité. J'ai pris connaissance du rapport de carottage du maître d'œuvre des futurs travaux du dôme. Sa conclusion est que les tremblements thermiques ont fait bouger les roches sous le dôme, d'un bon mètre. Il y a urgence à agir, et je demande que les travaux commencent au plus tôt. Davanath, ma visiteuse, a fini par se laisser approcher mentalement. Elle m'a confié quelques-uns de ses secrets. Elle est montée ici pour lutter contre la pâleur. Elle est certaine que verdir la surface de la lune avec des olivines permettra de bleuir à nouveau la terre par un système de réflexion qui lui est personnel. Je crois qu'à ce niveau, elle confond un peu les deux planètes. Nous nous sommes assises devant un de ces cairns branlants avant qu'il s'écroule. Davanath, tendant ses mains gantées au-dessus de la pyramide d'olivine aussi verte qu'un feu de barium, a regardé autour d'elle avec satisfaction. La plaine était pâle, à peine azurée sous le feu magnifique des astres et noyée derrière la brume légère qui accompagne partout Davanath. Car une fois le régolithe soulevé, il ne retombe pas de sitôt. Les mini-colas scintillaient. Un craterlet ouvrait devant nous une bouche parfaitement ronde et noire. Est-ce pour cela que Davanath le préfère à tous les autres? Il ressemble à une coupe remplie de nuit, et le génie qui l'habite porte un nom interminable. Sewewexpoxpiek, paraît-il. J'admire la capacité qu'a Davanath de transformer en un sanctuaire hanté par les dieux un simple bol à moitié comblé de sable.
« On se croirait là-haut », a-t-elle dit. « Sur le N'Galiema, du temps où il y avait de la neige et un ciel plein d'étoiles. Mais elle scintillait. Il y avait aussi du brouillard, comme ici, qui montait de la terre un peu avant l'aube. »
Davanath m'a parlé d'antiques nuits terrestres et des premières zones inhabitables à Umalkaiwain.
Quand l'air humide passait les 40 degrés centigrades, les hommes s'affaissaient en masse dans la vapeur brûlante pour ne plus se relever. Ils mouraient comme ça, bouillis sur place. On appelait ces endroits-là des « wet bulbs ».
Mais je pense qu'elle se vante, ou qu'elle a la Jelia. C'est-à-dire qu'elle transmet des moments vécus par ses ancêtres comme s'ils étaient les siens. Elle est loin d'avoir l'âge de Reine Constate. Davanath parle beaucoup, et de façon sensée une fois qu'on a compris dans quel monde elle vit. Mais il n'est pas utile d'essayer de lui parler des mondes d'à côté, et sûrement pas de s'en faire écouter. À la longue, c'est exaspérant. 6e jour du 9e mois de l'an 2325. Ferme la lande. Davanath, à force d'imiter la hyène et le loup, a fini par invoquer l'ombre de Laïka, et promène sur ses talons un rêve de chienne blanche. Elle fonce tout droit, par grande foulée, en criant « Kudryavka, Joutchka, Limonchik !» C'étaient les surnoms de Laïka, la petite chienne envoyée en orbite lors de la préhistoire spatiale, et qui est morte carbonisée dans Spoutnik 2. Davanath se retourne comme si un chien la suivait vraiment au milieu des sables de la Lune,
Elle claque de la langue et lance des pierreries loin devant elle, pour une raison qui m'échappe. Les robots fous la suivent en semblant beaucoup s'amuser. J'ai décidé de rentrer dans le rêve de Davanath. J'ai bâti près du sas de la ferme une niche avec des pavés de régolithes. Mais Davanath s'est contenté de dire « Laïka est un chien errant. Elle déteste les niches. » Et elle m'a tourné le dos pour lancer vers l'horizon obscur son Kudryavka, Joutka, qui ne dépasse pas l'horizon étroit de son casque. Puisque la niche ne s'insère pas dans le rêve de Davanath, j'aurais dû la démonter. Mais je l'ai laissée intacte. Je crois qu'il s'agit du premier abri construit à la surface de la Lune dans le seul but d'accueillir un animal, et que c'est pour ça que j'y tiens. Si je compare ce que m'inspire Davanath à ce que m'inspirait Renkonstat, je note des différences. Pourtant, ce sont tous deux de vieux rogatons égocentriques et excentriques. Mais Renkonstat ne m'inspirait rien. J'avais seulement la volonté, bien vaine, d'ouvrir son crâne buté pour en extraire les merveilleuses images qu'il contenait. Alors que Davanath, selon le moment, me fascine, m'attendrit ou me donne envie de l'achever à coups de fourche. 8e jour du 9e mois de l'an 2325. Ferme la lande. Des robots fous traînent au large de la niche de Laïka. Une volée de cam et quelques hygromètres croisent devant l'entrée sur leurs jambes graciles. Et ils ne sont pas seuls. Chaque fois que je jette un coup d'œil à l'entrée, au-delà de la paroi du dôme, je vois un spectacle différent. Un petit renifleur en arrêt, ou le dos roux d'un grumgeur presque enfoui dans les sables et qui avance vers la niche un millimètre après l'autre. On jurerait qu'une grosse tortue dort puissamment au milieu d'une meute de prédateurs apeurés. Lassé du silence des génies des cratères, Davanath a décidé d'aller en personne invoquer les génies des tubes obscurs. Je lui ai proposé de s'y rendre en rover.
« J'y vais à pied. Les génies des tubes détestent la technologie. »«
Et pourquoi ?»«
C'est comme ça. »
Je crains le pire pour elle. Elle n'est pas une marcheuse des sables dans l'âme. Marcher à la surface est une vocation, et ce n'est pas la sienne. Davanath est partie ce midi vers les tubes. Elle envisage d'y accéder par la lucarne de la vallée de Schröter. Et elle compte sur Laïka pour la guider. Trim et moi l'avons regardée s'éloigner à grandes enjambées allègres dans son scaphandre antique, droit vers le cœur de la mer des îles, foulant gaiement les mini-colas et suivie par de petits furets curieux qu'elle tentait de décourager à coups de cailloux. Une brume de régolithes la suivait comme un mauvais augure.
« Elle est fichue »,
m'a dit Trim. Elle est fichue. Parmi les visiteurs de la ferme, les marcheurs et les marcheuses des sables sont les plus furtifs. Les citadins de Mut les traitent d'instables et s'en méfient. Mais rien ne peut égaler la méfiance, pour ne pas dire le dégoût que les marcheurs éprouvent envers le reste de leur espèce. Aussi, cela leur est bien égal. Je me rappelle l'une d'entre eux, Edna. Elle souriait toujours bravement, ne se sentant bienvenue nulle part et ayant décidé de rester crâne malgré tout. Edna était passée à la ferme pour me demander l'hospitalité avant sa longue marche. Elle envisageait de se rendre à pied à la cité de Samusette, autant dire sur Mars. Son scaphandre n'était pas en état de tenir si longtemps, et elle, encore moins. Rien ne nécessite davantage de maintenance qu'un corps humain, on le sait. Mais je sais aussi combien il est vain de vouloir retenir une marcheuse. Et certaines accomplissent des miracles, franchissant une dune après l'autre d'un pas infime mais infatigable jusqu'à dépasser l'horizon. J'avais offert à Edna le gîte et le couvert. Nous avions longuement discuté, moi cherchant quoi lui dire, elle éludant toutes mes questions avec la même patience. Le plus souvent, les marcheurs prétendent être en quête d'un travail, rêvant que, dans d'autres cités, on saura reconnaître enfin leur mérite. Edna ne faisait pas exception. Elle m'avoua détester toute tâche assise et être, par principe politique, opposée aux tâches debout. Elle avait tâté sans succès des productions alimentaires, avait cassé la figure à 3 clients d'un pôle d'assurance qui avait eu la témérité de l'embaucher, et la seule idée d'un poste dans les mobilités lui donnait le vertige. « Et le monitoring ?» lui avais-je demandé. « Oh, j'ai très peur de ça !» Il lui paraissait logique de s'en aller chercher tout autour du globe un remède à son ennui et un travail adapté à ses innombrables empêchements. « Et pourquoi ne pas aller à la cité de Jaxa ? C'est quand même plus près que Samusette. » « Vraiment, c'est impossible. J'ai quitté Jaxa au bon moment. » « Et Omagad ?»«
Très peu pour moi. Tous des barbares à Omagad. »
« Edna, je crois que vous êtes dans une position affreuse. Peut-être la pire sur toute la Lune.
Il y faut bien quelqu'un, pourquoi pas moi ?
Et ça semblait lui faire étrangement plaisir. Au fait, c'était un travail comme un autre, d'être la personne dont on parle quand on soupire. Il y a pire. En attendant le moment de voir Edna s'éloigner dans la grande nuit, je lui avais parlé théâtre, à peu près le seul domaine qui ne lui provoquait pas de nausée. Nous avons joué la dernière scène du Sang des Xous, d'Anja. Et crois-tu qu'ayant changé de ciel, nous ayons changé d'enfer ? Qu'importe quel astre baigne nos nuits, etc. Là où Edna excellait, voire débordait, c'était en Shuangqi. Elle le chantait d'une voix langoureuse et juste. Heureusement, du pavillon au pivoine, elle ne connaissait qu'une scène sur les 55. Trim avait tenu bon jusqu'au bout, je lui en avais été reconnaissante. À l'époque, je montrais plus de patience qu'aujourd'hui. J'avais rapidement eu confirmation de ce dont je me doutais. Edna était une reprise de justice en fuite. Je lui ai fourni le nécessaire, un resurfaçage de son scaphandre, des provisions. Comme j'ajustais des cartouches d'oxygène à sa ceinture et qu'elle tournait vers le sas de sortie un regard de marcheuse, avide et anxieux, j'ai cru voir monter au fond de ses yeux le coton épais de la fièvre aspic. Mais ce n'était qu'un reflet. J'ai proposé à Edna de faire quelques kilomètres en rover, mais elle a refusé mon offre. Elle se méfiait des autorités et voyait les rovers comme des monstres de traçabilité. Je ne lui ai pas fait remarquer qu'un scaphandre en est un autre. Et de toute façon, une silhouette humaine progressant à la surface de la Lune est accrochée par tous les satellites. Trim et moi l'avons regardé partir comme un rond bélier, tout chargé de péchés, qu'une tribu intolérante aurait envoyé mourir au fond des déserts de la Lune. Trim a eu pitié d'elle. Moi, non. Les générations s'élèvent et retombent comme les moissons. C'est leur métier. Personne n'avait demandé à Edna de chercher la mort avant son heure. J'étais alors dans une plus grande paix émotionnelle. À la réflexion, je crois que les marcheurs sont des terriens à l'ancienne, qui cherchent sans le savoir les vents et les embruns de l'aventure parmi les sables, toujours des sables sans fin par des sables repoussés. Au fond, ils sont incapables de s'entendre avec les autres citadins sous-lunaires. À ce titre, ils ont toute ma compréhension. J'ai demandé des nouvelles de mon rover auprès de Ager, le contrôleur de l'entrée de Mut. Ager s'y entend pour résoudre les énigmes dès qu'il s'agit de rover, d'identification douteuse et de trafic en tout genre entre la surface, la cité de Mut et les autres cités. Il est persuadé que mon rover a été mis à la casse. Mais les casses n'en gardent pas trace non plus. Une forme d'angoisse me poursuit désormais, comme un petit rouage décentré qui grincerait. Sans compter que j'attends sans patience des nouvelles du maître d'œuvre censé réparer la fissure de la côte 237, qui ne viennent pas, et une idée lumineuse concernant la fièvre aspic qui ne vient pas non plus, tout en comptant brin à brin l'extension explosive de la mini-cola sur la mer des îles. C'est ainsi, de frustration en frustration, que je grince et cahote sur les chemins de mon quotidien. Toutes ces émotions sont décidément handicapantes. J'ai appris que Madame Veuve Ntoto, la propriétaire du keepsake Petit Paul, est morte de la fièvre aspic à l'hôpital de Mut. Elle m'avait confié ce livre pour que j'expertise les fleurs séchées qui y étaient collées depuis le début du XXe siècle terrestre. Que vais-je faire de ce keepsake ? Me voilà bien encombré. 13e jour du 9e mois de l'an 2325. Ferme la lande. Quelques lettrés de la commanderie de Mut sont passés se régaler brièvement de la fin de l'été à la ferme la lande. Je parie qu'ils sont à l'origine de la demande qui m'a été faite, celle d'absorber des textes afin de rédiger davantage mes rapports. Je me suis surprise à leur en vouloir, ce qui est absurde. Les mots ont détouré des images et les images, en se combinant, se sont raffinées en impressions que mon organisme a transmutées en sensations. Finalement, ces sensations se sont compliquées en émotions. Sans ces gens-là et leurs exigences littéraires, je ne serais pas capable de leur en vouloir alors que je ne peux pas les supporter. Bien sûr, les lettrés n'ont pas eu un mot aimable pour les parterres et les moissons, non tant par manque de vocabulaire que par incapacité à s'adresser directement à moi ou à un autre membre de l'équipe. Dans leur mentalité utilitariste, je crois que ce serait vraiment comme faire des compliments à une brouette. Je suppose que ces importants personnages ont mieux à faire, mais c'est la première fois que leur grossièreté m'inspire l'envie de distribuer des gifles. 17e jour du 9e mois de l'an 2325. Ferme la lande. J'ai beau répéter sur tous les tons à mes interlocuteurs de Mut que la ferme la lande n'est pas un centre de soins terminaux, Il n'y a pas moyen d'éviter que des citadins sous-lunaires en rupture d'hôpital viennent y finir leur jour. Je les accueille, bien sûr. Je suis là pour ça. Mais ça devient émotionnellement pesant. La dernière agonisante en date est Darumel, une jeune femme obsédée par les chevaux et dévorée par la fièvre aspique. Ensemble, nous avons regretté la disparition des chevaux et de presque tous les quadrupèdes à jambes graciles. Malgré les soins de Zante, la baisse de pesanteur entre la Terre et la Lune leur a trop coûté en masse musculaire et osseuse pour qu'ils parviennent à un état luno-compatible. Darumel a ensuite divagué interminablement au sujet de Fuji, un pur sang doré qui a remporté une course sur Terre des siècles auparavant.
« Il est enterré chez nous, dans notre hara, sous les citronniers »,
a dit Darumel, comme si elle était toujours propriétaire de 1000 acres au Turkestan. Et peut-être l'est-elle, techniquement.
« C'est pour ça que je suis venue ici », a-t-elle conclu, « pour être inhumée sous vos citronniers. »
Je l'ai regardée, verdie par la fatigue, raide, les yeux mats et le souffle lent. Elle n'a plus longtemps à vivre. Aussi lui ai-je promis d'accéder à sa demande. Je ne tiendrai pas parole, bien sûr. Darumel sera enlunée par mes soins au cimetière des veilleuses. Est-ce que ces gens se rendent compte de la charge bactérienne d'un corps en décomposition? Et de la fragilité de l'humus nourricier dans lequel vivent les citronniers. La demande de Darumel m'a mise de très mauvaise humeur. Trim, qui est observateur, me l'a confisquée avant que j'abrège ses souffrances à coups de bêche. Je crois que je supporte de plus en plus difficilement l'inconséquence d'un peuple qui regrette sans fin d'avoir ruiné une planète entière et n'a rien retenu de la leçon. Trim, de son côté, estime que c'est moi qui deviens inconséquente. Il a probablement raison. Auparavant, la légèreté humaine n'était pour moi qu'une note de bas de page. Elle ne rebondissait pas en mon fort intérieur comme un robot fou. J'attends toujours l'intervention du maître d'œuvre pour le remplacement de la dalle fissurée et la consolidation du soubassement du dôme au niveau de la côte 237. Ce retard me laisse perplexe. Et où peut bien être mon rover? Que fais-je alors?